bienvenue dans votre émission des radios capitaines titulaires et gars sur l'actualité de la semaine en RDC. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons ici au studio Madame Chantal Faïda Moulenga Biuma. Elle est membre de la société civile, elle est militante des droits spécifiques des femmes. Elle est également coach, écrivaine et coordonnatrice nationale de l'ONG Ouema Asbel, spécialisée dans les questions de gouvernance et des droits humains. Bonjour Madame Chantal Faïda Moulenga Biuma.
Bonjour Monsieur Guimaté et bonjour à tous les co-débatteurs de cette émission Regard Citoyen.
Merci. En ligne, John Ngombwa, il est journaliste et il est directeur des informations d'Antenne A, une télévision privée qui émet de Kinshasa. Bonjour John Ngombwa.
Bonjour Guy Maté, bonjour à tous les co-débatteurs de Radio Capi.
Merci. En ligne aussi, depuis la ville de Louvain, la Neuve, en Belgique, Timothée Tchaoumo Soucha, il est journaliste indépendant et spécialiste en politique internationale. Il est coordonnateur et chercheur indépendant à Quelle Afrique, un bureau d'études géostratégiques basé en Belgique. Il est aussi expert en stratégie et sécurité internationale, médiateur en coopération, prévention et résolution des conflits internationaux. Bonjour Timothée Tchaoumo Soucha.
Bonjour cher Guy Maté, bonjour à tous vos auditeurs, mais également mes co-débatteurs de cet après-midi.
Merci, à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Capi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Capi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Capi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de John Ngombwa. Il est journaliste et il est directeur des informations d'Antenne A, une télévision privée qui émet de Kinshasa. Madame Chantal Faïda Moulenga Biuma, membre de la société civile, elle est militante des droits spécifiques des femmes. Elle est également coach, écrivaine et coordonnatrice nationale de l'ONG Ouema Asbel, spécialisée dans les questions de gouvernance et des droits humains. Et en ligne depuis la ville de Louvain, la Neuve, en Belgique, Timothée Tchaoumo Soucha, il est journaliste indépendant et spécialiste en politique internationale. Il est coordonnateur et chercheur indépendant à Quelle Afrique, un bureau d'études géostratégiques basé en Belgique. Il est aussi expert en stratégie et sécurité internationale, médiateur en coopération, prévention et résolution des conflits internationaux. 3 sujets au menu de cette émission, à savoir la présidence de l'Angola annonce pour le 18 mars à Luanda des négociations directes entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Passé de 8 à 40 membres, le nouveau présidium de l'Union sacrée de la nation a été dévoilé samedi 8 mars à Kinshasa. Et enfin, journée internationale des droits des femmes avec un regard sur l'apport de la femme face au contexte des conflits armés dans l'Est de la RDC. Nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de la décision de la SADC de mettre fin à la mission de la SADC en RDC samedi à Si. En effet, les chefs d'État et des gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC décide de mettre fin à la mission de la SADC en RDC samedi à Si. L'annonce est faite dans un communiqué publié jeudi 13 mars à l'issue d'un sommet extraordinaire présidé par le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa qui s'est tenu par vision conférence pour discuter de la situation sécuritaire dans le pays. Dans ses communiqués, le sommet exprime sa profonde préoccupation face à la détérioration continue de la situation sécuritaire dans l'est du pays, notamment l'occupation de la ville de Goma et de Bukavu par les M23 ainsi que les blocages des principales routes d'approvisionnement rendant difficile l'acheminement de l'aide humanitaire. Le sommet a appelé à la protection et à la libre circulation des civils cherchant à se mettre en sécurité et a exhorté toutes les parties à respecter les principes humanitaires internationaux, à cesser les attaques contre les infrastructures civiles et à garantir un accès humanitaire sans entrave. L'annonce de la fin de la SAMI DRC, déployée le 15 décembre 2023 en RDC, intervient deux jours seulement après la révélation faite par l'Angola de l'entame des négociations directes entre Kinshasa et les rebelles du M23 à compter du 18 mars courant à Luanda. John Gomboa, comment vous réagissez à cette annonce de la SADC de mettre fin à la mission de la SADC en RDC Sami Diarsi?
Je dois avouer que j'étais personnellement surpris parce que la mission de la SADC, la mission militaire, était l'un des atouts au service du gouvernement de Kinshasa. Et donc, ce retrait a semblé sonner une nouvelle étape, ou annoncer une nouvelle étape dans les négociations. Et j'ai eu l'impression que finalement, Kinshasa était mis dos au mur pour les contraindre à discuter avec le M23 AFC et degré ou de force.
Merci. Madame Chantal Faïda Moulenga Duma, on sait que lors de la bataille de Goma, beaucoup de militaires de l'espace SADC ont perdu la vie, des militaires sud-africains et malawites, et que cela avait suscité, n'est-ce pas, l'émoi au sein de l'opinion publique de ces pays. Cette décision n'est-elle pas prise pour éviter que les gouvernements de ces différents pays ne se mettent à dos leurs opinions publiques?
Je m'en vais exprimer toute ma compassion à la population de la ville de Goma, à la province du Nord Kivu et du Sud Kivu, dans un premier temps, et ensuite dire que nous avons vu la solidarité des pays africains de la SADC lors de l'envoi, je pense, en 2022, des troupes de Sami DRC en RDC. Mais depuis leur arrivée, il y avait beaucoup de questionnements autour du caractère de leur mandat. Est-ce que c'était offensif ou c'était un mandat neutre d'observation? Et donc aujourd'hui, les regards que nous avons, c'est d'encourager à un retrait. Si jamais le gouvernement doit aussi s'exprimer par rapport à ça, que ces retraits soient progressifs et non précipités, c'est-à-dire qu'on puisse voir toutes les troupes parties au même moment, parce qu'on a besoin d'un transfert de responsabilité. Ces troupes avaient un équipement considérable, ces troupes avaient des informations, des renseignements, et même ils étaient témoins des atrocités qu'ont vécues la population du Nord Kivu et du Sud Kivu. Et donc l'encadrement de leur retrait va permettre au gouvernement congolais de préparer une documentation par rapport à tout ce qui s'est passé depuis le 27 janvier 2025 dans la province du Nord Kivu. Nous avons également besoin qu'ils puissent maintenir un suivi de la situation, même à distance. Il y a possibilité d'appuyer nos forces de sécurité tout en étant en distance et aussi s'impliquer dans les soutiens diplomatiques, parce que nous sommes en train d'aller vers la solution politique de la crise. On a besoin que les pays membres de la SADC puissent alors rediriger tous leurs efforts vers cette solution diplomatique, puisque au niveau militaire, on a constaté beaucoup, beaucoup de défis.
Merci. Timothée Kaombo Soucha, est-ce que vous étiez surpris par la décision de la SADC de pouvoir décider de la fin de la mission de la SAMI DRC, ou c'était pour vous quelque chose de prévisible?
Je l'ai dit lors d'une émission Dialogue entre Congolais sur vos antennes, en face du professeur Njoli, que la SADC partira de la RDC parce que le narratif de Kinshasa par rapport à ce qui se passe sur le terrain est totalement différent. Moi, je ne suis pas surpris du tout. Deuxièmement, il faut savoir que les pays anglophones qui nous entourent ont mis un terme à des guerres. Et chaque fois, ils ont toujours voulu porter un secours à la RDC, mais chez nous, n'avons pas encore de dirigeants qui comprennent que nous sommes devant la troisième confrontation mondiale où il faut avoir des dirigeants ambitieux, anticipatifs. Et donc, lorsque à Kinshasa, on est dans le verbiage, on est dans les animations, les autres sont dans une attitude de comportement sérieux. Soit on construit un narratif cohérent, complet,
compétents que l'on soumet à tout le monde, soit on renforce son armée, ce qui ne se fera pas du jour au lendemain, pour trouver l'intégrité du territoire national.
Merci.
Moi, j'étais pas du tout surpris.
Merci, on prend une petite pause en écoutant l'affaire Kitikwala du poète Lutumba Simaru Masia, et on se retrouve juste après.
Boy, sasa yela malinda na na simposa ya poema o na poli la la dio mpati ya mokie. Tishambwe masasi sasa yela malinda na na simposa ngana yemba o na poema mpati ya mpati ya mokie. Bishamwe lunsadina sasa simanga itoke nena mokili anseto vute o tokozu atako na paradiso e. Sambela kae, natangwe ya mpoko aliboso ya kolala, sambela kanza komba. Sambela kae, ataliboso ya kobenda mwankoto, sambela kae yave. Namo kiliyanse, zamba kababa chansa kababilo myo. Namo kiliyanse, egalise ikeleveo. Namo kiliyanse, eko mama bongo. Egaliseo, ezalise la zando pena tango yaliwa kole la kateo. Naboli moyanse, mibali balingise basi ya mobulu. Oya konyo kola ye. Yeah, calling a yellow, Eco Mama Bongo, Basti Balinima Balaya Monocoli, Oya Costali Saye, Yeah, Pokama Tainezova, Naboli Moyante, Eco Mama Bongo, Botoyo calling a yeah, calling a mosso, so Mama, Odina siti e, ne posti canano folle la longola lo va con la lista ma e. Longola lo va con la lista ma chi dico e. Longola un pinzolina misto a misti e. Longola lo va con la lista ma om con la folle la la vi. Passiamo chi le. Ngai nazalaka na zua, natekela basi ya mabala. Nazalaka na olendo, natekela baeba zwa kitoko. Kito kwelo kopamba e, kito konde mabeleo. Nazalaka na okuta, natekela batayo na bamemijeo. Mama e, natekela baesuver na bamekanisye lokuta nangai. Nakinela bateknise ya batelevizyo na bafrigo. Na kabalo kuta nanga na ba estro na banganga nkisi ye. Mama ye ye, nisambwe, sara loko langai. Namo kiliyanse, eloko moko toko pesa toli. Ata ozangi nyonso katiko zanga mbeto teo. Zomba mbeto ya kitoko, moko yoko kufaneko. Esto kipeto ya kitikwala, ebembe na yo eko yo kansoni. Kinshasa makambo, na matanga tomo na kande makambo. Basusu bakolera, basusu bakotonga mbeto ya mowei. Kintuso kiyo yeba na kambo, kilingo makambo mama.
C'était Affaire Kitikwala avec la voix de Carlito Lassa. Affaire Kitikwala, cette chanson du poète Lutumba Simaru Masia, chanson contenue dans l'album Maya sorti en 1984 dans l'orchestre Ok Jazz. On rappelle que le poète Lutumba Simaru Masia nous a quitté le 30 mars 2019 à l'âge de 81 ans à Paris en France. Paix à son âme. Au réveil à la côté cette semaine, le gouvernement angolais a fixé au mardi 18 mars le début des négociations directes entre les délégations de Kinshasa et les rebelles du M23 dans la ville de Luanda, capitale de l'Angola. Selon un communiqué parvenu à Radio Okapi, cette décision a été prise avec diligence face au conflit qui affecte l'est de la RDC. Ce document a été publié au lendemain de l'annonce par la présidence angolaise des négociations directes entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Timothée Tchaombo Soucha, vous êtes journaliste indépendant et spécialiste en politique internationale. Vous êtes coordonnateur et chercheur indépendant à Quelle Afrique, un bureau d'études géostratégiques basé en Belgique. Vous êtes également expert en stratégie et sécurité internationale, médiateur et en coopération, prévention et résolution des conflits internationaux. Vous avez souhaité nous parler de cette annonce de la présidence angolaise relative au prochain dialogue direct entre les gouvernements congolais et les M23. On vous écoute.
Oui, cher Guy, premier élément, c'est qu'il faut voir la catégorie des acteurs qui ont concouru à ce qu'est aujourd'hui le gouvernement angolais puisse proposer un dialogue direct entre le M23, l'AFC et le gouvernement congolais. C'est que d'abord, que ce soit la dernière résolution de l'ONU, je crois, 2773, mais aussi le Conseil de l'Union européenne, le président angolais lui-même comme facilitateur, mais aussi le dernier sommet mixte EAC-SADC. Il ne faut pas oublier aussi de parler de l'Union africaine, lors de la transition entre l'ancien et le nouveau gestionnaire du comité de l'Union africaine. Tous ces acteurs internationaux, régionaux et sous-régionaux ont proposé aussi le dialogue politique inclusif entre les acteurs en présence en République démocratique du Congo. La RDC, de son côté, avait accepté le point de vue parce que la première ministre, je l'ai décrit tantôt, qui a assisté représentant personnel du président Félix Tshisekedi, avait apposé la signature lors de ce sommet, comme quoi la RDC s'engageait sur le chemin du dialogue. Alors, on revient ici, il faut pédagogiquement mettre déjà en exergue le fait que, pour nos auditeurs, le processus de Luanda est un mécanisme qui met le dialogue entre l'État congolais et les agresseurs. Mais le processus ou le mécanisme de Nairobi est un mécanisme entre l'État congolais et les groupes armés congolais qui doivent expliquer, présenter leur cahier de charges, présenter leurs doléances auprès des dirigeants afin de pouvoir résoudre ce problème. Sauf que le M23, soutenu par le Rwanda, j'ai toujours voulu dire par l'Ouganda aussi, n'avait pas pris part à boycotter ces assises, préférant garder la ligne dure de leur base arrière que le Rwanda et l'Ouganda. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les rapports de force que j'ai toujours décrit s'étant observés sur le terrain à leur faveur, ils ont alors à ce moment-là contraint le président Félix Tshisekedi au dialogue. Mais il faut dire, il faut faire très attention ici, plusieurs facteurs ont contribué à ce dialogue qui se dessine par ce communiqué. Ces facteurs peuvent être endogènes, exogènes, mais ces facteurs peuvent être en faveur ou en défaveur des acteurs en présence qui ont fait que l'on se retrouve aujourd'hui. Il faut dire aujourd'hui que l'État congolais, prenez l'article, je crois, 69 de la Constitution, le président de la République, il assure l'arbitrage, le fonctionnement régulier de pouvoir public, etc. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale. Voilà. Est-ce que le président, au moment où nous parlons, il est garant du fonctionnement des institutions et services? Non, parce qu'il ne contrôle pas deux grandes provinces, le service douanier, donc le produit intérieur brut de la RDC est impacté dans son budget parce que les postes douaniers sont contrôlés par la rébellion de M23 AFC. L'économie qui engrageait les caisses de l'État dans ces provinces se trouve entre les mains de ce mouvement.
Et Timothée Tchaombo Soucha,
il faut dire aussi... Oui.
Oui, au-delà de tout cela, qu'est-ce qui peut expliquer, à votre avis, le fait que, alors que João Lourenço s'était désengagé, n'est-ce pas, du processus de Luanda pour se consacrer à la présidence de l'Union africaine, c'est lui qui prend l'initiative d'annoncer ces dialogues et fixe même la date du 18 mars. et pas les trois médiateurs désignés récemment par l'EAC pour piloter les processus fusionnés de Luanda et de Nairobi. Pourquoi c'est Lourenço et pas les trois médiateurs qui ont été désignés récemment?
Il y a un problème, je pourrais dire, il y a un problème de facteur confiance. En matière de résolution des conflits, il faut tenir compte de matière de confiance. Le général Lourenço, parce qu'il faut le signaler, le président Lourenço est un homme très stratégique, et puis il fait confiance. C'est un homme posé, qui est réfléchi, mais qui est très écouté au niveau de l'administration américaine, mais aussi de services secrets américains. Et donc, de ce fait, il connaît parfaitement les dossiers, il connaît le tempérament de tous les acteurs en présence, et donc, de ce point de vue, je crois que même ceux qui ont été désignés ont accepté quand même que le président Lourenço puisse pousser aller avec les choses vers la fin. Mais un élément que je voulais ajouter en ce qui concerne l'État congolais, c'est que il faut dire que quelque part l'État congolais se retrouve, je ne dis pas en position de force ici, l'État congolais n'est pas en position de force, mais a l'avantage d'avoir poussé le Rwanda à la faute dans la prise de Goma et de Bukavu. Parce que aujourd'hui, vous voyez, le Rwanda est sanctionné, un pays qui avoisine 5 milliards de dollars de budget, mais un tiers est écorché, qui viennent des aides internationales, etc. En même temps, le produit intérieur brut est impacté par cette guerre qui fait que ces aides ne viennent pas, le tourisme est quasiment au ralenti. Donc, aujourd'hui, le président Tshisekedi se trouve, de ce point de vue, en situation de venir, et je l'ai dit lors de la dernière émission sur Radio Capi, que le dialogue finalement aura lieu afin de mettre autour d'une table tous les acteurs et toutes les forces en présence. Un dernier élément, très brièvement, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on assiste à des débauchages, à des stratégies qu'on a toujours connues en République du Zaïre et puis RDC, où on va connaître un premier ministre chaque 3 mois, un premier ministre chaque 3 mois, parce que on ne s'est pas adressé aux acteurs importants. Il faut savoir que le peuple congolais est divisé par les acteurs ci-après. Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Martin Fayulu et Corneille Nangaa. Lorsque on veut faire un dialogue, nous ne devons pas avoir un ancien président qui a encore l'influence au sein des institutions de l'État en dehors du pays. Il faut l'amener à la table de négociation. Il faut amener Corneille Nangaa à la table de négociation. Il faut penser à ce pays et amener tout le monde à la table de négociation afin qu'une fois pour toutes, l'on mette fin à des guerres. Merci. Au lieu que nous puissions nous cantonner par nos égos personnels.
Merci, Madame Chantal Faïda Moulenga Biuma. Vous êtes membre de la société civile, vous êtes militante des droits spécifiques des femmes, vous êtes également coach, écrivaine, coordonnatrice nationale de l'ONG OEMA, ASBEL, spécialisée dans les questions des gouvernances et des droits humains. Avec ces dialogues, peut-on dire que c'est les scénarios de 2003 avec le RCD, de 2009 avec le CNDP et de 2013 avec le M23 qui est en train de se dessiner, celui, n'est-ce pas, qui consistait à assurer une certaine intégration politique et militaire des rebelles. Est-ce qu'il peut y avoir, il peut y exister un schéma autre que celui-là?
Je pense que pour l'instant, on n'a pas d'autre issue que la solution politique, parce que sur le terrain, les hostilités ont causé un bilan extrêmement élevé, et en tant que nation émergente, on ne peut pas sacrifier sur l'autel des ambitions personnelles de certains dirigeants la vie d'un millier de citoyens. C'est vraiment pas acceptable. Et donc, on doit tirer des leçons et parvenir à un accord historique jamais vécu, parce qu'on a déjà eu beaucoup d'accords dans ces pays.
Et donc, c'est pourquoi je demande, est-ce que ce n'est pas le même schéma, celui de 2003, 2009 et 2013? Est-ce que ce n'est pas le même schéma
où
on intégrait dans les institutions politiques et dans les FRDC les rebelles? Est-ce que ce n'est pas le même schéma?
Les acteurs ont changé.
Ou il y a un autre schéma à part celui-là?
Les contextes actuels, il est extrêmement différent parce que nous venons des élections de 2023. Donc, les pouvoirs en place sont légitimes. Il faut qu'on se le dise. En 2003, en 2002, on n'avait pas encore la constitution actuelle de 2005. Et donc aujourd'hui, le contexte il est extrêmement différent, mais les acteurs ont sensiblement changé parce que c'est la plupart d'opposants d'antan qui sont en train de chercher à prendre part à ces dialogues que nous voulons inclusifs. Et nous avons, en tout cas de mon point de vue, je pense que cette issue va permettre l'arrêt immédiat des hostilités sur le terrain. Parce que chaque jour qui passe, que ce soit dans la province du Nord Kivu, dans la province du Sud Kivu, il y a des pertes en vies humaines qui sont enregistrées. Plusieurs cas de violations graves des droits humains, des viols de femmes. Alors on doit parvenir à un cessez-le-feu si les parties protagonistes sont d'accord par rapport à cette proposition. Et donc avant même d'aller mardi à Luanda, on doit déjà vivre ce cessez-le-feu sur le terrain parce qu'on n'a pas encore senti cela. Il faudrait qu'il y ait des préalables comme l'ouverture du couloir humanitaire et même des canaux de communication, que Goma soit relié à Kinshasa. Ça fait pratiquement 60 jours presque que Goma n'est pas relié à Kinshasa, Bukavu, mêmement. Donc les institutions de Kinshasa ne sont pas en contact direct avec la population, alors que nous avons un seul pays et donc on ne doit pas parvenir à cette division de la nation. Les caractères du médiateur. La nation aimerait que ce soit une personnalité crédible. Est-ce que avant mardi, le gouvernement peut garantir à la population que le président Lourenço est crédible devant la nation congolaise? Est-ce qu'il est impartial? Est-ce qu'il n'a pas des agendas non connus par la population congolaise? Parce que nous, on aimerait que ce soit un accord historique, un accord qui ne nous ramène pas en arrière. Et donc cette fois, on ne va pas signer, enfin, on recommande aux autorités qui nous régissent de ne pas signer sans avoir pesé, analysé, vérifié la crédibilité de l'autre partie en présence. Donc il faut vraiment beaucoup de vigilance. Il faut également que les parties protagonistes soient disposées à faire des consensus. Parce que ça, il faut l'admettre, il ne faudrait pas que nous allions avec notre langage actuel qui demeure un langage qui, je dirais, va en guerre alors qu'on est vers la solution politique. Donc il faudrait se préparer. Et là, c'est un grand travail du côté du gouvernement pour préparer la population parce qu'on était dans une logique militaire et aujourd'hui, brutalement, nous atteignons une solution politique. Il faudrait une préparation. Donc il faut vraiment adapter la communication actuellement et surtout prendre en compte les victimes. Donc il faudrait qu'on parvienne dans cet accord à prendre en compte les mécanismes de justice transitionnelle, la réparation, la réconciliation et même la guérison des blessures qu'on a créées à la suite de cette guerre violente. Donc il ne faudrait pas oublier ces aspects lors du processus des négociations qui vont commencer, que nous souhaitons vraiment le plus rapidement possible entamer et que les délais soient courts parce que généralement les négociations des 98, ça a pris 5 ans pratiquement et donc on n'aimerait pas vivre cela. On a besoin que ce soit dans les meilleurs délais et qu'on puisse parvenir à des accords qui sont réalistes et dont on prend en compte les mécanismes de justice transitionnelle.
Merci. John Gomboa, vous êtes journaliste, directeur des informations d'Antenne A, une télévision privée qui émet de Kinshasa. Et beaucoup de choses se disent autour, n'est-ce pas, de cette approche de dialogue direct. À votre avis, quels sont les avantages que le gouvernement congolais pourrait tirer de cette approche de dialogue direct entre lui et la rébellion du M23AC? Et quels pourraient être les inconvénients, n'est-ce pas, pour le gouvernement congolais?
Les avantages, déjà, ce serait la fin des hostilités, parce que les populations de la partie est, nord et sud qui vous souffrent chaque jour qui passe, c'est un déchirement réel pour les pays. Et la fin de la guerre ou des hostilités pourra permettre à ce que les familles puissent se retrouver. Parce qu'il y a eu des familles séparées, des gens qui sont morts de manière brutale. Alors, de ce point de vue, c'est un avantage, j'allais dire, du point de vue humain. Mais sinon, le gouvernement a perdu. Il a perdu parce que jusque-là, officiellement, le gouvernement n'a pas annoncé qu'il va devoir négocier avec le M23-AFC. Parce que lorsque le président Félix Tshisekedi a été reçu par son homologue de l'Angola, le communiqué qui a suivi n'a pas fait état de ces dialogues directs avec les M23. Donc jusqu'à ce jour, la communication officielle n'en fait pas état. Donc c'est un gêne. Donc ça signifie que ce n'est pas un gain pour le gouvernement. Donc le gouvernement va aller à ces négociations. Les points liés, parce qu'il n'a pas pu réussir l'offensive militaire qui avait été promise. Et donc, il va falloir être beaucoup plus subtil avec les autres partis, y compris le M23, pour pouvoir faire passer son point de vue. Donc, je peux me résumer en disant que l'avantage de ces négociations, c'est la cessation des hostilités, parce que le pays n'a que faire de ces cycles de violence éternelle. Mais qu'en même temps, d'autre part, le gouvernement va aller en position de faiblesse à ces négociations. C'est que je voudrais par contre rebondir sur un aspect de la question que tu avais posée à la co-débattrice précédente pour savoir Madame Faïda, pour savoir si il y aura on va faire les mêmes choses qu'avant. Moi je pense que le chemin est tout tracé. Le chemin est tout tracé, c'est-à-dire les revendications du M23 sont les mêmes que du CNDP. Donc on va arriver avec des agendas qui vont parler de mixage, brassage, ainsi de suite. On va revendiquer des postes dans le gouvernement central, dans les entreprises publiques, et je ne vois pas qu'est-ce qui va changer, parce que nous avons déjà vécu cela plusieurs fois. Moi, je me dis qu'il est grand temps que la population congolaise soit un peu plus proactive sur cette question. On a trop laissé les acteurs politiques décider du pays, et généralement, ils prennent des décisions en faveur de leurs propres intérêts. Et c'est vraiment des intérêts privés, des papas, mamans, les enfants. Alors que le reste de la population qui subit ces décisions ne retrouve pas les dividendes. Donc, il est grand temps que la population congolaise soit un peu plus proactive, plus vigilante, pour amener aussi bien le gouvernement de Kinshasa que les autres parties prenantes à ces négociations, j'imagine les M23, AFC, j'imagine l'opposition politique et autres, à prendre cette fois-ci les décisions qui vont aller dans le sens de promouvoir la République démocratique du Congo, parce que nous sommes fatigués d'être l'arrivée du monde entier.
Merci, chères auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC est aussi l'actualité musicale. Le 3 mars 1976, naissait à Kinshasa Hervé Gola Bataringue, alias Ferré Gola. Cet auteur, compositeur, interprète, danseur et producteur congolais a fêté son anniversaire de naissance le lundi 3 mars dernier. À cette occasion, on va écouter l'un de ses classiques intitulé Jugement et on revient juste après.
Imperatore de la rumba congolienne. Ferré Gola, écrire toi-même est plus profitable que pour les lions. Adolphe Moute Bachilamouina, Yamouya.
Moya Tomaitane Nana Pongi, Namiso Polimo et la Lisa Kina Libana, Nasopo Kalobaki Naye, Mabemingi,
Nakomba Laza Innocent.
Le padre frappe encore.
Nakomio Mona Passi. Pour la mini au côté de la tête, Maoya Monina, Moyo, Nazali,
Claude Lukebakweno,
Payana, Nana, Mayele, Kati Soki, Polimwe, Kotrouble, Yangaï,
Excellence Bonaventure Ngopo,
Afrique, c'est mon néné, jamais Koko Kanana, Polimwe, Moyo, Pesta, Kanaï.
Général
Davira,
Claude Maluma, Jean-Dominique Okimba,
Jean-Sébastien
Massiana, Ginor Bilumbo,
par défaut, ma belle Chantal et Toumba,
Yves Mosengo,
le Doari, Podomo, Nazos, le Dé, Podomo, on a voyé Babouka, Bassamé, le Malika, Moya et Ensim, Naé, Kompé, Tassé, Yabasouzi, Yabalabala, Nasou, le Vé,
juridiction est compétente.
Général Dengue.
Afrique sa mon aîné, jamais pour qu'on a la polémo. Quand on fait ça, quand même, y'a moi n'a fait ça qui a monté ma nana. Sauf que bébé si nana, bébé, on
chef qui traîne au solo.
Et dans la basse, j'en ai une aïe.
Mais c'est Laurent Bourson, n'est bon qu'à ça. Birlengue, Jean-David Kiamboté, si c'est ma langue.
Oh, ya ya, elle, tu la mouina.
Colonel Daniel Olekoforce de France. Colonel Elvis.
Oye bisanga soki polimo esi.
La ville est tranquille.
Nasunga nanga mboka mbosi banga yo. Mwana moto sale lokote. Oh sina yo sale tati mante. Mamone bieto eleni mina so soye pongi.
General Delphine Kaimi.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur la société de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la société de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet de la décision de la SADC de mettre fin à la mission de la SADC en RDC samedi à 6. Nous avons également analysé l'annonce par la présidence angolaise d'un dialogue direct entre les gouvernements congolais et le M23 ASC. Participe à cette émission, John Ngomba, il est journaliste, il est directeur des informations d'antenne à une télévision privée qui émet de Kinshasa. Madame Chantal Faïda Moulenga Biuma, elle est membre de la société civile, elle est militante des droits spécifiques des femmes, elle est également coach, écrivaine et coordonnatrice nationale de l'ONG OEMA, ASBL spécialisée dans les questions de gouvernance et des droits humains. Et en ligne depuis la ville de Louvain-la-Neuve en Belgique, Timothée Tchaombo Soucha, il est journaliste indépendant et spécialiste en politique internationale, il est coordonnateur et chercheur indépendant à Quelle Afrique, un bureau d'études géostratégiques basé en Belgique. Il est aussi expert en stratégie et sécurité internationale, médiateur en coopération, prévention et résolution des conflits internationaux. La première ministre Judith Suminwa a alerté à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes sur la situation des femmes congolaises, premières victimes des conflits qui ravagent l'est du pays, une région où l'armée rwandaise appuie l'offensive des rebelles du M23 dans les provinces du nord-sud Kivu. Judith Suminwa s'est exprimée à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, samedi 8 mars, lors d'un culte œcuménique organisé au Palais du Peuple par les ministères du genre, de la famille et de l'enfant. Cet événement visait à soutenir les femmes victimes de la guerre. Dans son discours, Judith Suminwa a rappelé que la date du 8 mars constitue un moment singulier car cette célébration est porteuse d'enjeux de grande densité, insistant sur le fait que cette journée est l'occasion de mettre en lumière les atrocités que subissent les femmes de la RDC à cause de la guerre. Madame Chantal Faïda Moulenga Biuma, vous avez choisi, n'est-ce pas, de nous parler de ces sujets en les formulant ainsi, Journée internationale des droits des femmes avec un regard sur l'apport de la femme face au contexte des conflits armés dans l'est de la RDC. On vous écoute.
Oui, Monsieur Guimaté, j'aimerais exprimer ma pensée pieuse aux femmes et filles de l'est de la RDC et également à toutes les femmes de la RDC. Leur souhaiter une heureuse journée internationale de droits de femmes sous les thèmes au niveau international droit, égalité et autonomisation. Et au niveau de la RDC, les thèmes, il est vraiment très porteur d'un message d'espoir. La Congolaise au centre de toutes les ambitions. Et à l'heure actuelle, la RDC, son ambition ultime, c'est la paix et la sécurité. Et donc, les femmes congolaises sont mobilisées pour leur apport dans les questions de sécurité et de paix depuis 30 ans des conflits sanglants qui ont endeuillé toute la nation. Et donc, j'aimerais pouvoir proposer à la population de manière générale et aux femmes de s'élever, de se battre pour qu'elles soient également partie prenante aux négociations ou aux assises qui sont en vue pour la paix et les retours à la stabilité et même la reconquête des entités occupées. Parce qu'on a vu l'engagement des femmes. Je vais citer ici les consortiums des solidarités pour Goma, qui s'est mobilisé pour les plaidoyers, pour l'assistance humanitaire, mais du côté politique, on n'a pas senti l'apport de la femme. On a besoin qu'il y ait des femmes qui sont dans les institutions, des femmes qui sont ambitieuses politiques, et même les femmes de la société civile puissent prendre part activement aux négociations en vue pour que les accords qui vont déboucher de ces assises soient durables. Parce que des études ont démontré que lorsque les femmes participent aux négociations de paix, la durabilité de ces accords est très prononcée par rapport à lorsqu'elles ne sont pas visibles sur l'étape des négociations. Et il y a même un dicton qui encourage les femmes en disant que si on ne vous donne pas la place à la table des négociations, venez avec votre propre chaise. C'est dit qu'elles peuvent s'inviter et dire que je fais partie de cette communauté qui souffre, qui est endeuillée et j'ai une idée à proposer pour la solution. Et donc nous avons même en RDC un groupe de médiatrices africaines qui sont reconnues au niveau de l'Union africaine. C'est l'occasion de mettre en lumière leur travail, de les associer, d'écouter leurs propositions. Nous avons également analyser et même documenter d'autres crises sécuritaires de par le monde où les femmes étaient actrices premières pour éviter et prévenir la désescalade à l'issue des accords de paix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous signons des accords, mais 48 heures après, plus personne des parties signataires n'observe ces accords-là. Alors les femmes sont très actives dans la sensibilisation pour que la population s'approprie les accords de paix. Également, encourager les femmes à pouvoir former, éduquer les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, toutes les familles congolaises sont mobilisées pour que les jeunes soient actifs, que ce soit dans les forces de sécurité, que ce soit dans la société civile ou en politique. Mais il n'y a pas que ces messages de sensibilisation, mais il y a ces messages d'éducation, parce qu'on dit que la mère, c'est l'éducatrice de la société. Alors aujourd'hui, la société est en guerre, c'est-à-dire quelque part, la femme a failli et n'a pas éduqué à la paix. Et la paix, c'est une culture. Cette culture, on doit pouvoir l'incarner dès aujourd'hui, que ce soit dans les comportements, dans la famille, dans les milieux professionnels et même partout dans les milieux religieux, parce que plusieurs femmes sont très actives dans les églises. Alors il faudrait que les églises, les milieux professionnels et toutes les autres couches de la population soient mobilisées à la culture de la paix. On doit se former parce qu'on veut la paix, on doit la préparer, comme disent les pactes sociaux des évêques congolais que nous saluons, et également demander l'implication d'autres femmes africaines. Parce qu'on a vu à l'Union africaine un sommet de femmes qui a débouché à une convention contre les violences basées sur le genre et toute forme de discrimination. On aimerait qu'il y ait aussi la mobilisation africaine autour de la crise congolaise actuelle. D'autres nations africaines qui se mobilisent, principalement les femmes. Parce que les violences qui sont en cours sont inacceptables, intolérables. Les viols continuent à être utilisés comme armes de guerre. Ça doit cesser. On doit s'élever pour dire stop aux viols et respect à la dignité de la femme.
Merci. Timothée Chao Mosucha, la femme au cœur de toutes les ambitions. À votre avis, qu'est-ce que l'implication active de la femme congolaise peut avoir comme résultat lors des assises comme celles qui sont prévues à Luanda le 18 mars prochain?
Oui, c'est pour ça qu'il faudrait que le facilitateur puisse ouvrir son bureau afin de faire valider les personnalités qui voudront participer à ces assises. J'aimerais que la femme congolaise puisse participer activement et qu'elle ne parte pas derrière l'acteur politique de tel bord, de tel autre, parce que finalement, c'est... Je ne dis pas aussi que je ne vais pas à la contre du principe démocratique. Les femmes qui militent dans des partis politiques, il y en a. Celles qui ont des responsabilités au sein du gouvernement, il y en a, qui sont à l'Assemblée nationale, au Sénat, et à la société civile, on est avec Madame Faïda. Là, donc c'est un exemple frappant d'une femme qui se bat. Donc, moi, je n'aime plus parler des thèmes, parce que depuis que on a créé la Journée internationale des droits de la femme, on développe toujours des thèmes qui sont très très éloquents, mais dans les faits, il y a très peu de femmes qui s'engagent en politique, et il faudrait que la femme elle-même, et j'ai aimé l'exemple de Madame Faïda, s'il n'y a pas une place pour toi la femme, prends une chaise et viens avec. Donc à Luanda, il faut que les femmes s'impliquent. L'implication c'est quoi? J'ai vu les assises de Kisangani, de crimes qui ont été commis à Kisangani. J'aimerais que ces filles, ces femmes puissent venir aussi à Luanda pour dire, mais vous savez ce que vous faites? Voilà, maintenant, moi, j'ai pas de bras. Je n'ai pas de pieds. Donc, vous, vous serez demain, ministre. Et moi, je suis quoi? Il faut que ces femmes qui portent des stigmates dans leur corps, qui ont vécu des atrocités, soient représentées in situ personae et des organisations qui participent, parce que nous voudrions mettre un terme à ce cycle récurrent de violence. Parce que lorsque vous avez dernièrement aux élections à Kinshasa, on a fait 7 jours des élections. Ben, c'était que la tricherie. Donc, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Et lorsque la femme, parce que la question, savoir l'apport de la femme, lorsque la femme va dire des choses que les hommes sont en train de commettre sur elle, dans l'espace de la République démocratique du Congo, je crois que ce jour-là, les choses vont commencer à changer et les accords qui sortiront de Luanda, parce que là, c'est un début, on verra, peut-être qu'il y en a qui vont boycotter ou pas, nous ne souhaitons pas, mais peut-être qu'on va délocaliser cet endroit vers une autre capitale, mais dans l'un ou l'autre cas, il faut que la femme congolaise, jeune, moins jeune, âgée ou plus âgée, puisse participer activement à ces assises. Et il faut que les acteurs politiques cessent de décider, comme si les Congolais leur avaient confié leur avenir. L'avenir commence du ventre. Et si maman a préparé l'enfant, il ne l'a pas tué dans le ventre, et c'est celui qui prend une énergumène, qui prend les armes de main, ou qui triche aux élections, ou qui fait la mauvaise gouvernance, qui vient tué par le détournement, par la mauvaise gouvernance ou par les armes, la maman doit se lever pour dire, ben, terminé, mon fils. Seulement, il y a une violence faite à la femme et par l'homme, mais moi, je crois qu'il y a une violence faite à la femme et par la femme. Beaucoup de femmes se détestent. Parce que moi, je souhaiterais voir une femme devenir présidente de la République. Les hommes ont échoué depuis jusqu'à présent. Il faut que quand même une femme se lève. Prenez un peu le gouverneur qui gère la RDC. C'est qui le meilleur gouverneur? Voilà. Allons-y un petit peu, tantôt avec une femme, pour que devienne... En Centrafrique, c'est Madame Catherine Samba Panza, qui, lors du conflit, qui c'est le cas Tibalaka, le président de Tchodia a été invité à la démission, et une femme a géré la transition, à l'issue de laquelle elle ne s'était plus représentée, et a amené tous les hommes avec des cravates aux élections. À l'issue de ces élections, était élu le président Archange Touadéra.
Merci. Merci John Womboa. Même si la femme, comme elle veut, hein, les femmes voudraient aussi avoir une part active, n'est-ce pas, à ce genre d'assises, même si la femme, à partir du 18 mars prochain, a part active, n'est-ce pas, à ces assises de Luanda notamment, est-ce que vous pensez que sa voix pourrait porter lorsqu'on connaît tout ce qu'il y a comme préjugé, n'est-ce pas, de la part des hommes vis-à-vis de la femme?
Connaissant les acteurs politiques congolais, il est quand même assez difficile qu'ils accordent la parole à la femme, parce que la classe politique congolaise est suffisamment machiste pour ne pas penser déjà a priori à donner la parole à la femme. Donc moi, je doute fort qu'à partir de 10 mars à Luanda et peut-être toutes les autres rencontres qui vont suivre, si la femme ne fournit pas un effort particulier, que les acteurs politiques et belligérants se donnent la peine de lui accorder la parole. Je pense qu'il est grand temps que les femmes puissent s'impliquer de manière à avoir un peu plus de responsabilité, parce que tout ce qui leur est donné paraît comme si c'était une faveur qui leur est accordée. Qu'elles puissent avoir un peu plus de responsabilité, et j'espère, comme l'a dit les co-débatteurs précédents, pourquoi pas essayer la femme, ça nous donnera peut-être un peu plus d'épée que ce que nous vivons avec les hommes.
Merci, on prend une petite pause en écoutant Miss de Miss et Kofi Olomide, on se retrouve juste après.
Eka Tchaka, tu me tues tellement que je n'arrive pas à mourir. Oh,
C'était Miss de Miss, cette composition de Koffi Olomide, contenue dans son album Noblesse Oblige, est sorti en 1993. Koffi Olomide a eu un disque d'or en 1994 grâce à cet album Noblesse Oblige. Je rappelle que nous avons dans cette émission John Ngomba, il est journaliste et directeur des informations d'Antenne A, une télévision privée qui émet de Kinshasa. Madame Chantal Faïda Moulenga Viuma, elle est membre de la société civile, elle est militante des droits spécifiques des femmes. Elle est également coach, écrivaine et coordonnatrice nationale de l'ONG OEMA, ASBEL, spécialisée dans les questions de gouvernance et des droits humains. Et en ligne depuis la ville de Louvain-la-Neuve, en Belgique, Timothée Tchaoumbo Soutcha, il est journaliste indépendant et spécialiste en politique internationale. Il est coordonnateur et chercheur indépendant à Quelle Afrique, un bureau d'études géostratégiques basé en Belgique. Il est aussi expert en stratégie et sécurité internationale, médiateur en coopération, prévention et résolution des conflits internationaux. Passé de 8 à 40 membres, le nouveau présidium de l'Union sacrée de la Nation a été dévoilé samedi 8 mars à Kinshasa. Selon le secrétaire permanent de cette plateforme politique, André Mbata, cette nouvelle configuration inclut non seulement les membres existants, mais également des leaders ou représentants des partis ayant obtenu au moins 7 députés nationaux ou sénateurs lors des dernières élections. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait annoncé la restructuration de sa famille politique samedi 22 février dernier lors d'une rencontre à la cité de l'Union africaine. Dans sa communication, il avait exprimé sa déception face au manque d'engagement de certains ténors de l'Union sacrée dans la gestion de la crise sécuritaire qui couvre la partie est du pays. John Ngomba, vous avez souhaité nous parler de cette réforme au sein de l'Union sacrée de la Nation. On vous écoute.
Je voulais stigmatiser cette sorte de cynisme qui caractérise cette décision. Alors que le pays est dans une détresse profonde, on a l'impression qu'il y a des gens qui ne se préoccupent que de leurs intérêts privés. Quand on sait que cette instance, en vrai, c'est là que se prennent la plupart des décisions en rapport avec les mises en place dans les institutions publiques. Alors, prendre une telle décision, dans un moment pareil, moi, me laisse songeur, quoi. Je me dis, mais est-ce qu'on est préoccupé vraiment par la détresse de la population? D'une part. D'autre part, vous savez que la classe politique n'est pas une génération spontanée. La classe politique actuelle, en réalité, elle était là à l'époque de Joseph Kabila, elle était là sous Laurent Désiré Kabila et même sous Mobutu. Et moi, je crois que la meilleure définition pour caractériser cette classe politique, c'est une décision qui a été faite par Laurent Désiré Kabila, c'est un conglomérat d'opportunistes. Ils ne sont préoccupés que par leur propre gain. Donc voilà pourquoi j'étais moi choqué et déçu par cette décision et aussi par les réactions qui ont suivi, parce que il y a eu beaucoup de gens qui ont revendiqué, qui ont voulu faire partie de cette instance, comme si brusquement ils vont se trouver des avantages. Alors les gens ne réfléchissent qu'aux avantages alors que le pays est en train de sombrer. Et je crois que ça, c'est l'une des grandes faiblesses du régime politique qui, à certains égards, sort une association des gens qui veulent se faire de l'argent sur les dos de la population et de l'État.
John Rombois, un réaménagement qui semble ne pas mettre tout le monde d'accord parce que certains cadres de cette plateforme disent ne pas soutenir ce qui vient de se faire. Était-il opportun de procéder à cette réforme dans le contexte du moment, John Rombois?
Non. À mon sens, ça ne se justifie pas du tout. Ça ne se justifie pas du tout parce que cette majorité devrait se consacrer davantage à préparer des stratégies pour aller rencontrer les autres parties prenantes, les belligérants y compris, au lieu de penser à partager le pouvoir. Pour l'année tout à l'heure, c'est aussi la réaction des autres qui n'étaient pas d'accord, mais cette réaction a été simplement motivée par le fait que eux n'ont pas été nommés et qu'ils avaient besoin de faire partie de cette sorte de grande mangeoire.
Merci. Merci Timothée Tchaombo Soutcha. Qu'est-ce qui est facile à gérer, un présidium à 6 ou un présidium à 40?
D'abord, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs.
Oui, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
À la place du président Tshisekedi, il aurait juste nommé un seul individu qui gère tout le monde, avec un petit secrétariat. C'est tout. C'est tout. Ça ne sert à rien d'avoir une débileuse, pléthore de gens. Le président avait un contrat avec son allié Vital Kamerhe en 2018 pour une alternance. Mais bon, l'appétit a dit en mangeant. Le président a fait comprendre à Vital Kamerhe qu'il pouvait briguer un deuxième mandat. Et la Constitution lui permet. Aujourd'hui, le président est à son deuxième mandat. Je crois qu'il aurait, de mon point de vue, il aurait pu tout simplement placer en avant Vital Kamerhe pour dire vous m'avez soutenu pendant 10 ans, maintenant venez organiser l'Union sacrée afin que lors de l'alternance de 2028 nous puissions conserver le pouvoir, mais avec vous comme mon dauphin. Ça donne tous les sens. C'est parce que dans ce pays-là, il n'y a pas d'homme d'État. C'est juste des acteurs politiques qui sont des politiciens et qui sont là pour construire leur empire financier. Deuxièmement, le président s'inquiète par rapport à la mauvaise gestion de la situation de l'Est. Mais lorsque, je n'entre pas dans le secret, dans le service de sécurité ici, lorsque l'ancien administrateur général de l'ANR a voulu mettre la main sur tous ces réseaux-là qui sont en train de gonfler les nombres au sein de l'armée, et tous ceux qui ont participé dans la mafia financière, ben qu'est-ce qu'on a fait de Loussadous? On a fait partie de la MR. Donc, vous savez, le problème, ce n'est pas le présidium. Le problème, c'est le président qui a vu, qui voit comment l'armée nationale devient un service commercial. Qui sont ceux qui sont en train d'affréter les avions pour amener les militaires au front, amener la ration militaire? Qui sont ces sociétés qui sont chargées d'acheter des tenues militaires, qui font des pléthores de surfacturation? Qui sont ces gens qui achètent le matériel militaire? Est-ce que c'est le présidium de l'Union sacrée? Donc, faut pas qu'on passe 5 ans, 6 ans à accuser les autres, alors que le problème vient de soi-même. Moi, je crois que le président doit savoir faire passer la main maintenant en organisant, en laissant de 40 personnes, il peut nommer juste une personne qui est le coordonnateur. Il traite avec cette personne pour dire nous avons le pouvoir, nous devons le conserver démocratiquement. Allez, messieurs, organisez comme l'alliance et la majorité présidentielle de Joseph Kabila. C'est pas pour rien, Joseph Kabila a géré sa majorité 18 ans. C'était au-delà de tout ce qu'on peut lui reprocher, et moi-même, avec mes amis, nous avons beaucoup reproché. Et il y a des choses à reprocher à Joseph Kabila, mais il y a un aspect, Joseph Kabila était un homme discipliné, voilà. Et donc, il y avait de la discipline, peut-être que dans sa première nature d'un officier, d'un soldat, mais c'était un homme discipliné. Et il n'y avait pas de désordre comme ça, on ne peut pas nous dire que c'est la démocratie qui fait que les gens soient mécontents, ils parlent à gauche, à droite. Même au sein de Joseph Kabila, il y avait des mécontents, il y avait de la discipline. Tous ceux qui ne voulaient plus suivre la ligne de la majorité prenaient la porte. C'est pour ça qu'il y avait le G7, Moïse Katumbi est parti et les autres, etc. Voilà. Donc, dans l'un ou l'autre cas, ce n'est pas ces organisations politiques qui peuvent trouver solution à la question de l'Est. Le problème, est-ce que nous sommes grands, comme le Congo est grand? C'est un problème de volonté. On ne demande pas aux dirigeants congolais de devenir des médecins, des astronautes et des ceci, juste qu'ils prennent de bonnes décisions et qu'ils mettent des gens qu'il faut là où il faut.
Merci.
Que l'on quitte les mondes de quotas, parce que là, je termine par là, je t'ai dit, c'est les quotas qui tuent les gens. Il faut prendre des gens compétents au sein de l'opinion, qui n'appartiennent à aucun parti politique. Ces gens peuvent aider un chef d'État. Le chef de l'État doit avoir des contradicteurs du président. Même au temps biblique, les rois avaient des contradicteurs qui pouvaient parler, leur montrer le chemin.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Madame Chantal Faïda Moulenga-Biuma, Monsieur Timothée Tchaoumo-Soucha et Monsieur John Ngomboa. Merci aussi à Alain Goy qui est à la technique avec la participation de Christian Lomombe, Didier Dadi et d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Sebou-Jangwe. À la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur les sites radiocapi.net. On se sépare avec Vie à Zéro, cette autre composition des Régola, toujours à l'occasion de la commémoration de sa date de naissance. On écoute donc Via Zéro et on se retrouve le samedi prochain.
Kaiser Sosé, Clément Vivanta, Jeta Makaniaga, Marie-José Nzumba.
Bolingo yesie, modela ngai mwana ya mawa, kiyete milambo. Meteo ya la fina ngai, kaka bambula, na ye. Bolingo yesie, swaka mino na moti mapatie de le. Sous-titrage Société Radio-Canada.
toko koma tira sukate tala esika toko moto ya salaki komema yo nzoka azalaki kolinga bima o okaro toko e lutete jile toko e anisokoto jile Chantal et sa vie Santa Marie-Josée Toumba Marie-Jeanne Kimi
Belle vie c'est Banoki, la cité